être aussi gros que possible pour ne pas être mangé par la région. Et c'est comme ça qu'ils ont eu les routes, le RMI, RSA, etc. Les personnels, les collèges, etc. Ce qui est fait aujourd'hui, vous voyez, sous le poids de leurs charges et pose un très 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 gros problème départemental. Le département est vraiment dans le système, l'institution qui a les plus grosses difficultés pour concilier ses missions, ses compétences et d'une certaine manière la gestion du territoire. Parce que tout simplement, un certain nombre de compétences qu'on a attribuées au département parce qu'elles étaient gérées par les services départementaux de l'État auraient dû aller à la région. Bon. Maintenant, on va le faire peut-être avec la nôtre, notamment la voirie, certains transports, etc. Donc, on a en réalité une autre stratégie régionaliste dans l'intérêt général de la France et des régions. Et maintenant, tout d'un coup, voilà, les régions, les arguments qui ont été avancés, vous le savez, sont tous tombés au fur et à mesure qu'on les discutait un petit peu. Faire des économies, ça c'est absolument certain qu'on n'en fera pas. Une étude a été faite en Normandie, parce que les deux Normandies avaient l'intention, ont l'intention, le souhait, de se regrouper. Et cette étude, extrêmement précise et détaillée, vraiment jusque dans les comptes, hein, montrait que pendant cette année, les dépenses, les charges allaient augmenter, et puis au bout de cette année, on arrivait sur un palier, puis après, peut-être comme ça. Mais en termes de réduction des dépenses budgétaires, il n'y arrivait pas. Deuxième argument, on va faire des euro-régions, ben, ça ne veut rien dire, sauf que dans le texte, dans les textes du Conseil d'Europe, les euro-régions sont des régions transfrontalières, ce sont de la coopération transfrontalière, mais pas des régions de taille européenne. On sait aussi que les régions françaises sont plutôt dans la moyenne, et parfois même plus grandes. Là, il n'y a que 5 Länder allemands qui sont plus grands que la Lorraine, par exemple. Bon, voilà. Et puis, tous ces arguments. Donc, ce qui est dramatique, c'est que cette réforme faite de façon illégitime dans sa procédure est faite sans raison. On ne peut plus expliquer ce qu'on attend. On ne peut plus dire pourquoi on l'a fait et quels sont les bénéfices qui en résulteront. Franchement, en dehors de tout aspect juridique, polémique, etc., c'est pas qu'on a jamais vu un rarement vu. Un pataguette pareil, j'ai eu moins de temps. Bon, alors, maintenant, deuxième aspect dans mon prochain, il y a eu une absence de méthode complète. Quand on a fait la réforme de 1959, et surtout celle de 1964, il y a eu des études, il y a eu des expérimentations, il y a eu des départements pilotes, et on a tenu compte de ça avant de rédiger les textes, les décrets de mars 1964, par exemple. Bon, ici, aucune étude. Il y a certes une étude d'impact, 52 pages qui accompagne le projet de loi. Écrite en une semaine, moi je suis admiratif pour les fonctionnaires à qui on a fait écrire cela. Cette étude d'impact est obligatoire aujourd'hui en vertu de la Constitution et de loi organique de l'application de la Constitution, a été d'une certaine manière soumise au Conseil constitutionnel parce que les sénateurs ont considéré que l'étude d'impact n'était pas conforme aux exigences de la loi organique qui réglemente les études d'impact et que par conséquent, on ne pouvait pas examiner le projet de loi. Donc, il était en quelque sorte irrecevable du fait d'une insuffisance de l'étude d'impact, situation qui peut se retrouver aussi d'une certaine manière en droit administratif. Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Premier ministre, qui a voulu surmonter ce veto, cette opposition des sénateurs, et le Conseil constitutionnel a répondu que l'étude d'impact remplissait les exigences de la loi organique, c'est-à-dire qu'elle répondait, enfin, il y avait une réponse sur les différents points qui sont exigés par la loi organique. Il n'est pas allé, il ne peut évidemment pas aller jusque-là, jusqu'à examiner la pertinence des arguments qu'ils ont utilisés. Donc, ça n'a été qu'une étude absolument formelle, en quelque sorte, c'est pas du tout un examen de fond de cette étude. Pourquoi est-ce qu'une étude d'impact est importante dans ce domaine? Parce que le territoire, c'est toute la substance, en réalité, de la collectivité locale. C'est le territoire définit la communauté humaine. Il donne le nom, il définit les caractéristiques économiques, il définit les personnes qui vont payer des impôts, qui vont bénéficier de services, etc. Et que tout cela mérite étude. C'est d'ailleurs ce que les textes ont toujours exigé. Il fait une petite recherche historique. Tous les textes du 19e siècle, je vais les citer, tous les textes du 19e siècle exigeaient la faire une enquête. Et c'est cette enquête qui était soumise au conseil municipal ou au conseil général pour avis. Enfin, l'avis, je crois que c'est ça qu'il faut bien comprendre. L'avis n'est pas important simplement comme formalité démocratique pour recueillir l'opinion. Et l'avis est important parce qu'il exige justement cette étude préalable. Si vous demandez un avis à quelqu'un, il faut lui donner des explications, argumenter, et donc il faut faire l'étude. Donc il y a une forte relation entre l'étude et l'avis. L'un détermine l'autre, si je puis dire. Le fait qu'il n'y ait pas eu d'étude interdisait probablement l'avis, évidemment le fait qu'on n'ait pas demandé d'avis n'exigeait pas non plus d'étude. On retrouve là, sous un aspect pas seulement juridique, mais je veux dire de méthodologie et de sciences sociales, une erreur absolument indéfendable. Et si les textes anciens sont importants, parce qu'ils ont aussi nous donner des arguments. Je voudrais maintenant passer à l'étude vraiment des arguments juridiques qui sont utilisés pour essayer d'obtenir du Conseil constitutionnel une déclaration d'inconstitutionnalité, ce qui évidemment fait disparaître les dispositions. Alors, pour être tout à fait précis, je pense que cette déclaration d'inconstitutionnalité ne portera pas sur l'ensemble de la loi. Parce que la loi ne comprend pas seulement le redécoupage des régions, mais également les dispositions sur les élections. Maintenant, les parlementaires ont aussi des arguments de type procédural, extrêmement compliqués et techniques, dans les détails desquels je ne rentre pas, qui pourraient justifier une annulation plus large de la loi, parce que, je le répète, ça ne porte pas sur le contenu, mais sur les procédures, et ces procédures qui concernent à la fois le coupage régional et les dispositions électorales. Sur le fond maintenant, qu'est-ce qu'on peut reprocher à ces termes terme proprement juridique. Là, c'est qu'elle méconnaît un principe constitutionnel. Donc, il faut le trouver, ce principe constitutionnel. Et là, qu'elle a difficulté, c'est le fait que lorsque j'en ai discuté avec un certain nombre de parlementaires, qui ont discuté avec un conseil juridique, ils m'ont dit non, ça ne marche pas. Parce qu'on n'a pas d'emblée une règle qui peut être invoquée et qui est frontalement méconnu, violé par cette loi. Alors on a vu apparaître, mentionné l'existence dans un des tout premiers articles que j'ai publié dans la Ligne Blanc, la charte européenne de l'autonomie locale. Cette charte européenne de l'autonomie locale est un traité conclu dans le cadre du Conseil de l'Europe en 1985 et qui est un texte assez court mais assez dense et qui donne vraiment la philosophie substance de ce que peut être le self-government dans le langage britannique, la décentralisation autonomie locale en langage français. Ce traité a été signé le jour même de l'ouverture de la signature en 1985 par la France, et ensuite, pour des raisons obscures, hein, on a mis beaucoup de temps à le ratifier, mais il a été ratifié et il est en vigueur, et donc, comme tout traité, il a valeur supra-législative. Il a valeur supra-législative, ça veut dire que la loi doit respecter les clauses, les dispositions du traité, à défaut de quoi elle n'est pas conforme. Maintenant, le gros problème, c'est de savoir qui constate cette non-conformité. Eh bien, le Conseil constitutionnel a jusqu'à présent, et il maintiendra probablement assez longtemps sur cette position, refusé de faire le contrôle de ce qu'on appelle la conventionnalité, c'est-à-dire la conformité des lois à des traités. Donc, bien que la Constitution dise que les traités sont supérieurs à la loi, le Conseil constitutionnel estime qu'il n'a pas, lui, dans son office, listé de vérifier la conformité des lois aux traités. Peut-être pour une raison qui a aussi longtemps retenu le Conseil d'État de faire ce contrôle.
Le
Conseil d'État. Non. La même raison.